Christophe de me donner l'occasion de faire mémoire de cela.
Donc les enfants, bon anniversaire mon père. Et les enfants, je vous invite à vous retrouver dehors, juste là.
Voilà. Bien. Alors, dans le temps que nous avons pour cet enseignement, je me propose de vous parler de l'actualité du message, surtout en ce jour, donc, ou en ces deux jours où nous célébrons Marguerite Marie, pour faire prendre conscience que ce qu'a vécu Marguerite Marie n'est pas un événement spirituel confiné simplement à une période de l'histoire, au XVIIe siècle, avec sa culture propre, sa spiritualité, ses dévotions, mais que, en fait, ce qu'elle a vécu et le message qu'elle nous délivre a une portée non seulement universelle, c'est-à-dire pour couvrir toute la face de la terre, l'Église universelle et le monde, mais aussi tous les temps et qui débouche dans l'éternité. Le message qu'a reçu ici Marguerite Marie, les révélations qu'elle a vécues, la vie qu'elle a vécue ici, sa découverte éblouie du Sacré-Cœur ont marqué définitivement l'histoire de l'Église et la mentalité chrétienne et imprègnent en quelque sorte tout le dynamisme de l'évangélisation, de la mission. Le père Édouard Glotin, un jésuite qui nous a quittés il y a un an maintenant, grand spécialiste de la spiritualité du cœur de Jésus, dit que Marguerite Marie, en fait, c'est une des plus grandes visionnaires de toute l'histoire de l'Église. Donc pas simplement une mystique du XVIIe siècle, pas simplement une sœur visitandine qui a reçu des révélations qu'elle livre, mais véritablement une des plus grandes visionnaires de toute l'histoire de l'Église, parce que précisément la nature même de ce qu'elle a vécu est profondément biblique et théologique et missionnaire et évangélisateur. Je me rappelle encore qu'une personne qui venait fréquenter les grandes sessions d'été me disait que par El Monial, bon, les événements se sont passés au XVIIe siècle, ensuite il y a eu des fleurs magnifiques. Tous les grands pèlerinages, y compris au XIXe siècle, au début du XXe siècle, des pèlerinages immenses. Cette personne me disait, tout ça, ce sont des fleurs qui fleurissent, qui grandissent. Mais, me disait-elle, les fruits, c'est seulement maintenant, avec le renouveau, avec tout l'apport du Concile Vatican II, avec cette nouvelle effusion de l'Esprit-Saint, que Jean XXIII désirait ardemment pour l'Église et pour le monde, en convoquant précisément le Concile Vatican II. Les fruits grandissent maintenant. Il suffit de voir aussi la spiritualité des derniers grands papes, Jean-Paul II qui a été un véritable disciple du cœur de Jésus, profondément influencé par le message justement de Paris le Monial, bien sûr enrichi ensuite par le message de la Divine Miséricorde avec Sœur Faustine, Benoît XVI, qui est un véritable contemplatif, qui pose son regard sur le côté transpercé de Jésus. Il y a plusieurs ouvrages de lui avant même qu'il soit pape, comme par exemple l'ouvrage intitulé « Contempler celui qu'ils ont transpercé ». Et si on voit son magistère de pape, eh bien par exemple dans sa première encyclique, « Deus Caritas Est »,« Dieu est amour », eh bien il n'y a pas moins de 7 allusions à ce passage de l'Écriture. Jean 19, un des soldats de sa lance lui perça le côté, il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Je reviens à Marguerite Marie pour d'abord situer la grandeur même de sa place dans l'histoire spirituelle de l'Église et dans ce que nous avons à vivre de notre temps. Je vais le faire de façon très simple avec les paroles de plusieurs personnes spirituelles, des auteurs, mystiques ou autres, qui ont pu dire cette chose étonnante. C'est que Parelmonial vient en deuxième du point de vue importance dans l'histoire du salut, après Jérusalem. Bien sûr, Jérusalem où tout s'est accompli. Jésus est mort sur la croix. Son cœur a été transpercé à Jérusalem, sur le Golgotha. Saint Jean l'a vu, il était au pied de la croix, le disciple que Jésus aimait. La Vierge Marie était présente au pied de la croix, Marie-Madeleine et d'autres. Donc ça, c'est la première manifestation du cœur ouvert de Jésus. Mais sinon, dans toute l'histoire de l'Église, aucun saint, aucune sainte, à part Marguerite Marie, n'a vu le cœur ouvert de Jésus, l'ouverture du cœur, dans lequel elle a vu ce cœur jaillir des flammes. Elle est la seule, dans la suite de Saint Jean, à contempler le cœur ouvert de Jésus. Même sainte Faustine n'a pas vu le cœur ouvert. Elle a vu les rayons, les deux rayons jaillir du côté de Jésus, mais elle n'a pas vu l'intérieur du cœur, comme l'a fait Marguerite Marie. Ce qui fait qu'il y a une sorte de continuité organique, cohérente, une prolongation par rapport à l'événement du Golgotha, Jérusalem, relaté par Jean, et maintenant relayé par Marguerite Marie, qui d'ailleurs recevra de Jésus lui-même aussi le titre, il lui dira « Je veux faire de toi maintenant ma disciple bien-aimée de mon cœur ». Donc vraiment directement l'héritière de Jean. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que notre Seigneur a voulu que la première des trois grandes apparitions, il y a eu trois grandes apparitions pour Marguerite Marie, il y en a eu beaucoup d'autres, mais il y a ce qu'on appelle les trois principales apparitions, eh bien la toute première a eu lieu en la fête liturgique justement de Saint Jean l'évangéliste, un 27 décembre. Au passage, je veux rappeler ce que je rappelle à tous les pèlerins, que les trois grandes apparitions à Marguerite Marie ont toujours eu lieu alors qu'elle était en adoration devant le Saint-Sacrement. Soit devant le Saint-Sacrement enfermé dans le tabernacle, sur lequel elle avait les yeux fixés, soit parfois le Saint-Sacrement exposé. Donc dans l'ostensoire, Marguerite Marie était une adoratrice passionnée car elle ne voulait vivre que de l'amour même de Jésus. Et elle disait que sa seule satisfaction était que son cœur soit comme enraciné, comme en son centre, disait-elle, dans le cœur de Jésus. Elle fera cette expérience. Et précisément, c'est le jour de Saint Jean qu'elle fera l'expérience bouleversante de la révélation du cœur et de cette union au cœur. Je vais vous le dire en quelques mots. Elle était donc devant le Saint-Sacrement et elle dit donc, il lui révéla son cœur. Elle fut toute investie, dit-elle, de cette divine présence, comme d'un feu. Alors, il lui fait la grâce de trois expériences mystiques exceptionnelles. Elle reçut d'abord la grâce de reposer longuement sur son cœur, comme Saint Jean lors du dernier repas, chapitre 13 de son évangile, justement. C'est là où, dans la Bible, dans l'Écriture, le disciple que Jésus aimait entre en scène. C'est la première fois qu'on le nomme, pendant le dernier repas, au moment même de la grande épreuve, au moment où Jésus se trouble profondément jusqu'au plus profond de ses entrailles à cause de la trahison imminente par Judas. Alors se trouve Jean tout contre Jésus et qui ensuite se penche sur la poitrine de Jésus pour lui demander « Qui est-ce qui te livre ?» Donc Jean, le premier disciple, le premier confident du cœur de Jésus. Alors voilà que Marguerite Marie va faire exactement la même expérience. Et longuement, longuement, on ne mesure pas le temps dans un événement surnaturel, mais elle a eu la sensation d'une très longue durée, pendant laquelle son cœur a été comme embrasé par cet amour, mais aussi pacifié, consolé. C'est peut-être une des premières choses que Marguerite Marie veut nous enseigner ou nous réenseigner. C'est la centralité de l'adoration dans notre vie de baptisé. Ce temps de cœur à cœur indispensable à avoir avec Jésus tous les jours. Le temps est variable selon notre degré de spiritualité ou de foi ou de pratique. Mais que chaque jour, il y ait au moins quelques minutes, au strict minimum, de ce cœur à cœur silencieux. Se reposer sur le cœur de Jésus, c'est un des aspects de l'adoration. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des aspects. Se reposer pour recevoir de lui pacification, sanctification, sainteté, consolation aussi et guérison profonde. Être penché sur son cœur. La deuxième expérience mystique que va vivre Marguerite Marie lors de la première grande apparition, Jésus va lui dire les paroles suivantes. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier qu'il ne peut plus contenir en lui-même les feux de son ardente charité. Il faut qu'il les répande par ton moyen. Donc mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier qu'il ne peut plus contenir en lui-même les feux de son ardente charité. Il faut qu'il les répande par ton moyen. Et c'est là où l'actualisation du message se fait. Ce que naguère Jésus a dit à Marguerite Marie, il le dit maintenant à chacun de nous. Ces paroles, je vais revenir ensuite à la première apparition et aux autres aussi, mais ça va nous servir un petit peu de ligne, de fil conducteur, mais je vais aussi faire un petit peu des excursus. Voilà une parole de Jésus qui a une importance profondément biblique. Finalement, Jésus ne dit rien d'autre à Marguerite Marie par ses paroles que ce qu'il dit dans l'évangile de Luc, avec d'autres mots, bien sûr, au chapitre 12, verset 49, quand Jésus dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme déjà je voudrais qu'il soit allumé. Je suis venu jeter un feu, le feu de son amour. Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme déjà, je voudrais qu'il soit allumé. » Comme une sorte de sainte impatience qu'il y a dans le cœur de Jésus. Quel est ce feu ? C'est le feu dont brûle son cœur sacré. C'est le feu de l'Esprit-Saint. C'est déjà une annonce de la Pentecôte. Quand est-ce que ce désir de Jésus va se réaliser enfin ? C'est après sa mort, sa passion, après sa résurrection, après son ascension, lorsqu'il sera à la droite du Père, du haut du ciel, il enverra d'auprès du Père l'Esprit qui descendra sur les apôtres sous la forme de langue de feu, embrasera. Donc je suis venu jeter un feu sur la terre et comme déjà je voudrais qu'il soit allumé. D'ailleurs, il y a, si vous allez à la chapelle des apparitions, au-dessus des reliques de Marguerite Marie, de la châsse de Marguerite Marie, où on la voit, mais je le signale tout de suite, ce n'est pas son corps qu'on voit, c'est une effigie effigie de cire, il y a au-dessus une mosaïque qui relate une vision, qui n'était pas une grande apparition, une vision qu'avait eue Marguerite Marie. Elle a vu le cœur de Jésus, les flammes jaillissaient de ce cœur. Il y a toujours l'image du feu, c'est vraiment le feu qui nous occupe aujourd'hui, dans l'actualité du message, le feu. Je suis venu jeter un feu sur terre, où Jésus qui dit « Mon cœur ne peut plus garder ces flammes ardentes de charité ». Donc là encore, elle voit les flammes jaillir du cœur de Jésus. Mais elle voit aussi la croix plantée dans ce cœur. Et elle voit la couronne d'épines entourant le cœur. Alors Jésus va lui faire la grâce de lui expliquer lui-même, tel qu'elle le relatera ensuite à un père, de lui expliquer lui-même le sens de cette vision qu'elle a eue. Jésus lui dit que dès le moment de son incarnation, dès le tout premier instant de son existence comme homme, comme Verbe fait chair, la passion a déjà commencé. Il ne faut pas voir ça d'une façon doloriste, de se dire que toute la vie de Jésus, c'est une douleur constante. D'une certaine façon, c'est vrai aussi, mais il ne faut pas du dolorisme, c'est-à-dire voilà, de s'épandre dans l'affliction perpétuelle, ce n'est pas ça. Il faut voir la passion d'abord comme une passion d'amour, un désir tellement ardent qu'il brûle et qu'il crucifie déjà le cœur de Jésus, dès le premier instant de son existence. Il dit que la croix est plantée dans son cœur dès le premier moment où il existe comme homme dans le sein de la Vierge Marie, que la couronne d'épines est déjà là. Cela veut dire qu'il y a un tel désir, une telle passion, et surtout une compassion, au sens premier du terme, qui veut dire souffrir avec, dès le tout premier instant, et ça c'est très théologique et biblique, dès le tout premier instant de son existence dans le sein de la Vierge Marie, dès qu'il devient homme, il est déjà ce grand prêtre dont parle l'Épître aux Hébreux, grand prêtre rempli de compassion, qui vient au devant de toutes les détresses humaines. Il est venu pour cela. Donc, étant donné qu'il est vraiment venu pour cela, pour entrer dans ce monde de péché, de ténèbres, ce monde marqué par la mort et le malheur, alors déjà son cœur est celui du grand prêtre, compatissant, et qui sans tarder vient déjà rejoindre toutes les détresses humaines. Et donc la passion a déjà commencé à ce moment-là, avec les flammes d'amour. Dès ce moment-là, le cœur de Jésus, alors que Jésus est évidemment encore incapable totalement de parler dans le sein de sa mère, c'est évident, mais dès ce moment-là, le cœur du Verbe divin, en quelque sorte, prononce ces paroles, « Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme déjà, je voudrais qu'il soit allumé. » La troisième expérience mystique de Marguerite Marie, toujours lors de cette mémoire liturgique de Saint Jean, en ce 27 décembre, sera une expérience pas tout à fait unique, mais en tout cas très étrange et très puissante. Jésus lui demande son cœur. Alors elle va le supplier de le prendre. Il va prendre le cœur de sa protégée, de Marguerite Marie, donc elle va bien percevoir que son cœur quitte son corps, pour être plongé dans le cœur brûlant d'amour, dans la fournaise ardente de Jésus, où il va rester un petit temps. Elle dira qu'elle a l'impression de voir son cœur comme un atome dans une fournaise ardente, dans une sorte d'incendie. Toujours l'image du feu. Après quoi, son cœur va lui être rendu, complètement transformé, embrasé par l'amour. Et là encore, Marguerite Marie vit quelque chose, peut-être d'un peu unique dans l'histoire mystique de l'Église, pas tout à fait, il ne faut pas comparer. C'est évident, quand on voit par exemple ce qu'a vécu une Marthe Robin, donc c'est aussi complètement unique et d'une intensité inégalée, mais à sa manière, néanmoins, avec cette expérience de ce transfert du cœur, puis de ce cœur qui lui a été ensuite rendu, Marguerite Marie va pour un temps expérimenter un tout petit peu de façon limitée, car ce n'est qu'une créature, elle va pour un temps aimer avec l'amour même de Jésus, avec l'amour même du cœur de Jésus. Et ça, c'est extraordinaire, un amour total, sans la moindre ombre, d'une pureté incandescente, sans la moindre ambiguïté, sans la moindre arrière-pensée ou arrière-sentiment, ou sans le moindre refus, ou sans le moindre frein. Elle va expérimenter dans son cœur qu'est-ce que c'est que l'amour même du cœur de Jésus. Alors c'est presque trop pour un être humain. Et de fait, elle va en garder une douleur au niveau du cœur jusqu'à la fin de ses jours. Une douleur qu'on pourrait appeler, c'est une définition qu'on peut donner, une sorte de stigmate, mais intérieur, pas visible, intérieur au niveau du cœur. Et c'est pour cela que dans la démarche jubilaire, on propose ce geste très symbolique lorsqu'on va prier à la chapelle des apparitions sur le lieu même où toutes ces choses sont arrivées. Eh bien, on dépose un petit cœur en papier que vous trouvez dans les petits bulletins qui vous seront distribués ou qui vous ont déjà été distribués, et on le met dans une espèce de vasque qui est au pied des reliques de Marguerite Marie, une manière de dire « Seigneur, je veux plonger moi aussi mon cœur dans ton cœur ». Comme le faisaient d'ailleurs les premiers chapelains de Paray le Monial, lorsqu'ils ont été institués vers la fin du XIXe siècle, ils faisaient régulièrement une prière de consécration au cœur de Jésus, et cette prière était totalement inspirée de cette expérience mystique de Marguerite Marie. Et les paroles qu'ils prononçaient étaient les suivantes. « Seigneur Jésus, prends mon cœur et plonge-le bien avant dans la fournaise ardente de ton divin cœur. Et là, détache-en toute affection et passion mauvaise. » Détache-en toute affection et passion mauvaise. Et ça, c'est une prière que nous pouvons faire nôtre. Surtout au moment de recevoir la Sainte Communion, et surtout aussi pendant les moments d'adoration, où on est devant le Seigneur, devant son cœur brûlant d'amour. On peut lui dire, Seigneur, prends mon cœur encore tellement blessé, tellement encombré, et plonge-le dans la fournaise de ton cœur. Et là, purifie-le, sanctifie-le, guéris-le. Voilà. Donc une expérience que Marguerite Marie a vécue pour que, à notre tour, nous la vivions, non pas de façon aussi spectaculaire qu'elle, si je puis dire, de façon si visible. Bon, ça, je reconnais que c'est quand même quelque chose d'énorme. Mais que nous en vivions au moins les fruits et la possibilité de faire toujours cette prière. Plonge mon cœur dans le tien. Et dans ce feu, purifie mon cœur. Donc voilà, tout cela, j'étais parti pour dire que Paray le Monial est dans la prolongation de Jérusalem. Que Marguerite Marie a vu le cœur ouvert de Jésus, elle en a vu les flammes ardentes, elle a expérimenté même ces flammes. En d'autres termes, il lui a été donné d'entrer à l'intérieur de ce cœur comme dans une demeure. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, on peut dire alors que Paray le Monial est vraiment, en quelque sorte, comme au cœur de l'Église avec Jérusalem. On a dit tout à l'heure que Paray le Monial était, entre autres, il y a plusieurs jumelages, mais qu'il était, entre autres, jumelé aussi avec Bethléem, en raison de l'incarnation, mais c'est aussi à cause de l'histoire même récente de Paray. Le maire de Paray le Monial, donc un grand catholique pratiquant, a en même temps une mission d'apaisement et de rencontre avec Arafat. Il est allé plusieurs fois à Bethléem, il y a eu plusieurs gestes qui ont été faits de solidarité, etc. D'où l'idée de jumeler Paray le Monial aussi avec Bethléem. Mais en fait, Paray le Monial mériterait tout à fait d'être jumelé avec Jérusalem aussi, au moins en ce qui concerne la contemplation de la passion et du transpercement du cœur de Jésus sur la croix. Au Golgotha. Alors de ce point de vue-là, bien sûr, on pourrait me poser la question, c'est quand même étonnant, est-ce que Paray le Monial vient avant Rome dans la hiérarchie de l'importance ? Bien sûr que non. Du point de vue de l'institution, du point de vue de l'organisme qu'est le corps du Christ, qui est l'Église, évidemment, Rome est absolument centrale. Mais là, nous parlons d'un point de vue mystique, profond, intérieur. Il y a une union indissoluble entre Jérusalem, la ville du grand roi transpercée, et Parilmonial, où Jésus a donc révélé ce cœur au XVIIe siècle. Dans la deuxième grande apparition, alors, un premier vendredi du mois, le Saint-Sacrement étant exposé ce jour-là, Marguerite Marie est de nouveau en adoration. Je vous rappelle que c'est une adoratrice passionnée. Elle aurait voulu passer jour et nuit devant le Saint-Sacrement, c'était sa raison d'être. Elle ne pouvait pas le faire. Il y avait des travaux, des tâches à accomplir. Il y avait la vie conventuelle aussi à honorer. Mais elle, en ce qui la concerne, elle trouvait toute sa joie, son centre, le centre de sa vie, dans l'adoration. Elle aurait voulu même, selon une comparaison, une analogie qu'elle fait, elle se comparait à un cierge. Elle aurait voulu fondre comme la cire d'un cierge sous la flamme brûlante de l'amour du cœur de Jésus. Voilà quelque chose qu'elle peut aussi nous communiquer. Vous voyez, l'image du feu est toujours ici dominante, prépondérante. Donc, elle est devant le Saint-Sacrement, alors, dit-elle, Jésus lui apparaît, tout éclatant de gloire, tel que le représente d'ailleurs la peinture murale dans la chapelle des apparitions, justement. Les plaies de Jésus, les plaies de sa passion étaient comme des soleils. Et la blessure du côté ouvert était, dit-elle, comme une fournaise. Plus tard, elle ajoutera l'adjectif « fournaise ardente », la fournaise ardente du cœur de Jésus. De nouveau l'image du feu, le cœur ouvert, sous forme de flamme. J'y reviens dans un instant. Je dis simplement le contenu du message. C'est là que, mais peut-être qu'un autre chapelain ou un autre enseignement va vous le donner plus en détail, c'est au cours de cette apparition que Jésus commence à se plaindre. C'est la partie la plus douloureuse du message. Il dit qu'il a montré tout son amour dans le Saint-Sacrement aux hommes, et que de beaucoup il ne reçoit que ingratitude, indifférence, froideur, négligence, oubli. Alors il va demander à Marguerite Marie de consoler son cœur, de réparer, voilà la thématique de la réparation, de réparer en lui rendant amour pour amour. Et c'est là qu'il va lui donner les trois grands moyens de la réparation. Les premiers vendredis du mois, les premiers vendredis du mois, communion réparatrice pour tous les outrages et sacrilèges que notre Seigneur reçoit dans le Saint-Sacrement. La demande expresse de Jésus de l'institution d'une fête en l'honneur de son Sacré-Cœur pour que son cœur soit honoré. Et enfin, la pratique de l'heure sainte où Jésus demande à Marguerite Marie de veiller tous les jeudis soirs de 11h du soir à minuit dans sa cellule pour veiller avec lui et l'accompagner dans son agonie. Il y a un portable là ? Voilà, bon. Donc, voilà pour la deuxième grande apparition. Je reviens maintenant sur l'image du feu, fournaise ardente. Voilà, on peut se dire en premier temps, ben c'est très bien, c'est extraordinaire ce qu'elle vit. Quelle expérience mystique. Mais c'est une expérience qui plonge ses racines au plus profond même de la Bible. Je voudrais lire un extrait d'une méditation de Jean-Paul II. Un angélus au cours duquel il médite une des invocations, des litanies du Sacré-Cœur. Ces fameuses litanies qu'on récite souvent, surtout à la fête du Sacré-Cœur, et que Jean-Paul II connaissait bien, parce que depuis son enfance, il les connaissait en Pologne, on les récite très très fréquemment. Et donc il y a une invocation qui dit « Cœur sacré de Jésus, fournaise de charité. » Fournaise de Charité, bien sûr, s'est inspiré de ce que Marguerite Marie a vu. Alors, Jean-Paul II nous dit « La fournaise brûle. En brûlant, elle consume toute chose, aussi bien le bois que d'autres substances. Le cœur de Jésus, le cœur humain de Jésus, brûle de l'amour dont il déborde. Le cœur de Jésus est une fournaise inextinguible, alors que Jean-Paul II nous dit par ailleurs que la fournaise en brûlant, d'habitude, elle s'éteint peu à peu. C'est l'expérience quotidienne qu'on a. Mais là, le cœur de Jésus, au contraire, est une fournaise qui ne s'éteint jamais. Et c'est là, donc, que Jean-Paul II dit « En ceci, il ressemble à ce buisson ardent » du livre de l'Exode, chapitre 3. La grande révélation faite à Moïse, le buisson ardent, le feu, et le buisson ne se consume pas précisément. Le buisson qui était embrasé et ne se consumait pas. Donc Jean-Paul II fait un lien, d'ailleurs il n'est pas le premier à le faire, avec des pères de l'Église, entre l'amour de Jésus et le buisson ardent. C'est une constante aussi dans les pères de l'Église d'ailleurs. Ils disent le buisson ardent annonce même l'incarnation d'une certaine façon. Le feu qui brûle au cœur même du buisson, et cependant le buisson qui n'en est pas détruit, est une annonce de l'incarnation. La divinité du Verbe éternel ne détruit pas son humanité. D'autres font le rapport avec la Vierge, au moment où elle conçoit dans son sein par l'Esprit Saint. Le feu de l'amour, le feu de la puissance du Verbe éternel ne détruit pas l'humanité de Marie, qui à ce moment-là est considérée un petit peu comme un buisson, mais un buisson qui brûle de cet amour, mais sans être détruit, sans être consumé. Mais cela devient encore plus éloquent lorsqu'on regarde avec Marguerite Marie le cœur de Jésus comme fournaise ardente. Alors, à partir de là, Jean-Paul II va dire « L'amour qui brûle dans le cœur de Jésus est surtout l'Esprit Saint, dans lequel le Dieu Fils s'unit éternellement au Père. » L'Esprit Saint. La fournaise que nous voyons dans le cœur de Jésus, que nous voyons avec les yeux de notre foi, c'est le feu de l'Esprit Saint. Le feu est un des symboles privilégiés pour parler de l'Esprit Saint et de son action. Il y a le feu, vous avez l'eau aussi, vous avez le vent, le souffle, mais le feu est quand même un symbole privilégié. Rappelez-vous les langues de feu. Le cœur de Jésus, le cœur humain de Dieu homme, est étreint par la vive flamme de l'amour trinitaire qui ne s'éteint jamais. Voilà le cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, et qui réchauffe le monde. Qui réchauffe, dit Jean-Paul II, prenons une image, la fournaise illumine les ténèbres de la nuit, elle réchauffe les corps glacés des voyageurs. Parfois on a un petit peu froid dans notre cœur, dans nos sentiments, dans notre psychologie, la fournaise nous réchauffe. Mais ce que nous retenons ici, c'est vraiment l'image du buisson, l'image du feu comme symbole de l'Esprit Saint et surtout l'étreinte trinitaire. Le Père embrassant le Fils embrassant le Père, dans une étreinte de feu, ce feu n'étant autre que la troisième personne de la Trinité, et qui est l'Esprit Saint. Au passage, je salue à l'avance celle qui va être canonisée demain, Élisabeth de la Trinité, donc, qui va être canonisée à Rome, et qui avait, elle, vraiment un cœur brûlant dans la contemplation de la Sainte Trinité. Elle qui disait qu'elle voulait être ensevelie dans la Trinité pour que la Trinité s'ensevelisse dans son cœur, une sorte d'ensevelissement réciproque. Donc elle aussi, elle nous aide à sa manière à cheminer pendant ces fêtes de Marguerite Marie. D'ailleurs, puisque je parle d'Élisabeth de la Trinité, c'est anecdotique, mais c'est important. Savez-vous que lorsqu'elle est entrée au Carmel, Le premier projet, c'est qu'elle vienne au Carmel de Paris le Monial. Il y avait un Carmel ici, jusqu'au début des années 80, sur la route de Charolles, cette grande maison qui ressemble un petit peu maintenant à une sorte de forteresse, on ne sait pas trop ce que c'est de l'extérieur, c'était le Carmel. Faute d'habitantes, il a dû fermer au début des années 80. Mais donc, du temps d'Élisabeth, il était prévu qu'elle soit au Carmel de Paris le Monial. Et ce n'est pas neutre, dans la cité du cœur de Jésus. Dans cette cité brûlante de l'amour du cœur de Jésus, tout était prêt, sa cellule, tout était déjà organisé. C'est in extremis que les autorités du Carmel ont décidé qu'elle resterait à Dijon pour ne pas ajouter encore la souffrance de sa mère qui était à Dijon. Pour que la séparation ne soit pas encore plus cruelle, elle est quand même restée géographiquement du coup à Dijon. Mais donc il y a quand même un lien entre Élisabeth de la Trinité et la spiritualité du cœur de Jésus ici à Paray-le-Monial, vous voyez ? Donc, j'ai abordé le buisson ardent. Pour rester un petit peu sur l'image du feu, car ce feu, il est actuel. Je suis venu jeter un feu sur la terre, c'est une parole pour aujourd'hui. La sainte que nous célébrons aussi aujourd'hui, sainte Thérèse d'Avila, alors elle ne parle pas exactement du même feu, mais c'est la même ardeur, dirons-nous. Elle a vécu quelque chose de très fort, et aussi avec le cœur de Jésus. Elle a vécu ce qu'on appelle la transverbération, c'est-à-dire elle a elle-même expérimenté le transpercement du cœur. Et alors, à un moment donné, elle dit « le monde est en feu ». Alors là, c'est un feu plutôt destructeur, négatif, c'est les feux destructeurs du péché, de l'iniquité, etc. Mais néanmoins, il y a toujours quand même ce côté de la dimension de la flamme. « Le monde est en feu », dit-elle, « ce n'est pas le moment de s'occuper de choses de moindre importance ou de choses secondaires. » En d'autres termes, l'urgence des temps réclame de nous un désir de sainteté, d'adhésion, de don de nous-mêmes au Christ. Elle dit ça au XVIe siècle. Donc, le buisson ardent est une des images bibliques, mais pour rester simplement sur l'image du feu, et pour montrer l'aspect biblique des révélations à Paray-le-Monial, donc vraiment centrale, quelques autres images de fournaise ou de feu. Avec Moïse, tout d'abord, le don de la loi, à partir du chapitre 19 et tous les chapitres qui suivent du livre de l'Exode, sur le mont Sinaï, la montagne était en feu. C'était un feu qui terrifiait le peuple d'Israël. Le tonnerre, bruit de voix, tremblement de terre, mais surtout ce feu. Or, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que, toujours de nos jours, nos frères juifs, et là je les nomme parce qu'ils sont en plein actuellement dans les fêtes les plus solennelles de leur année, ils viennent de célébrer le Yom Kippour, demain soir ils commencent la fête des tentes, la fête des cabanes, la fête des tabernacles, etc. Donc, il y a une Pentecôte, la Pentecôte avant d'être une Pentecôte chrétienne est une Pentecôte juive, c'est une fête juive, 50 jours après la Pâque juive, la Pessah. Et de quoi font mémoire nos frères juifs à la Pentecôte ? Précisément le don de la loi sur le Sinaï. Le don de la loi est la mémoire de cet événement qui constitue le peuple comme peuple élu, comme peuple de Dieu, comme peuple structuré par la loi même de Dieu et par ses commandements, avec l'évocation des flammes, tremblements de terre, etc. Donc le don de la loi, c'est la Pentecôte. Alors voyez comme l'Esprit-Saint est extrêmement pédagogue pour faire comprendre à nous, chrétiens, le sens profond et surtout les racines de cette Pentecôte qui a été vécue maintenant il y a 2000 ans à Jérusalem, la Pentecôte des Actes des Apôtres. Les signes sont là de nouveau. Un violent coup de vent, comme un tremblement de terre, comme un coup de tonnerre dans la maison. Et puis le ciel qui s'ouvre et le feu qui se répand sous forme de langue de feu. Ça rappelle le Sinaï. Et alors voilà l'Esprit-Saint, la nouvelle alliance, la nouvelle effusion de l'esprit, la loi nouvelle, non plus inscrite sur des tables de pierre, mais dans nos cœurs de chair, par l'Esprit Saint. Tout cela est présent dans la fournaise ardente du cœur de Jésus. Le cœur ouvert de Jésus est la source permanente de l'effusion de l'Esprit Saint que nous sommes appelés à vivre. C'est une des grandes grâces de ce renouveau qu'a voulu Jean 23, qui voulait, je le rappelle, une nouvelle Pentecôte. D'autres images, cette fois-ci très rapides, sur le feu. Toujours avec Moïse, mais cette fois-ci dans le désert. La fameuse nuée, qui est un grand symbole de l'Esprit Saint aussi, qui guide le peuple dans le désert, mais la nuit, cette nuée devient une colonne de feu. Dans la ténèbre du désert, dans l'aridité du désert, dans l'obscurité de notre histoire humaine, la colonne de feu nous guide et est un repère permanent pour nous. Le cœur de Jésus brûle dans nos ténèbres et dans les ténèbres de notre histoire. Je suis venu jeter un feu sur la terre, comme déjà je voudrais qu'il soit allumé. C'est tout le sens de la nouvelle évangélisation. La nouvelle évangélisation n'est pas un acte militant et encore moins de prosélytisme. C'est d'abord la contemplation de cette fournaise ardente, de ce désir impatient de Jésus qui ne peut plus contenir en lui-même les feux de son ardente charité et qui a soif de les répandre pour une Pentecôte perpétuelle. Et nous avons à en être les missionnaires, les instruments. L'année de la miséricorde n'est pas uniquement une année pour nous, pour consommer en quelque sorte les grâces. C'est une année qui nous est donnée pour d'abord nous convertir et devenir à notre tour des flammes qui se communiquent. Il y a une dimension profonde et missionnaire dans l'année de la miséricorde. Pour atteindre les périphéries, pour atteindre ceux qui n'ont jamais été atteints par les rayons mêmes du cœur de Jésus. Donc cela nous concerne. Et toutes ces images bibliques ne font pas partie du passé, ce sont des symboles de ce que nous vivons actuellement. La colonne de feu dans la nuit du désert est très parlante pour nous aujourd'hui. Nous avons à être ce peuple guidé par cette colonne de feu et montrant en nos contemporains, alors chacun selon sa grâce, chacun selon le degré même de sa sphère d'influence, au minimum par la prière, par l'adoration, mais aussi par le témoignage direct, nous avons à être ces indicateurs de cette colonne de feu. Une autre image biblique du feu très connue, très populaire, qui peut rejoindre celle du cœur de Jésus, c'est évidemment dans le livre de Daniel, au chapitre 3, la fournaise ardente dans laquelle les trois jeunes gens sont plongés, refusant de se plier aux exigences idolâtriques du roi de Babylone, de Nabucodonosor. Donc ils sont jetés dans le feu. Et le feu ne les détruit pas. Au contraire, ils se promènent dans le feu d'où s'exhale une sorte de parfum et un quatrième personnage se manifeste. Un ange gardien. Et c'est dans ce feu et de ce feu que monte une des plus belles hymnes de louange, de cantique de toute l'histoire du salut et surtout de la Bible, de l'Écriture. Le cantique des trois jeunes gens dans la fournaise que nous récitons au laude du dimanche si souvent dans notre office liturgique. La louange à Dieu qui monte de la fournaise. Le cœur de Jésus qui est notre lieu de demeure aussi. Ce lieu de la fournaise dans lequel nous sommes ranimés pour devenir des vives flammes, des flammes d'amour, de louange et d'adoration, d'intercession, de don de nous-mêmes. Profondément actuel cela. Donc il y a cette image des trois jeunes gens, mais il y a une image maintenant que je voudrais retenir qui n'est pas tellement connue, enfin les initiés la connaissent bien, mais qui est très liée, alors qu'on ne s'y attend peut-être pas, au message de Parhelmonial. C'est dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 20. Alors je vous situe le contexte. Malachie parle du grand jour de Dieu, le jour final où tout sera consumé. L'achèvement de l'histoire. Alors qu'il y a deux dimensions, il y a une dimension qui est absolument redoutable pour ceux qui résistent à Dieu, et au contraire, une dimension qui est béatifiante, bienfaisante pour ceux qui lui obéissent. Alors ce sera une fournaise redoutable comme un four. Le jour du Seigneur viendra comme un four, nous dit Malachie. Tous ceux qui résistent, les impies et tout cela, sont comme consumés. Mais, dit Dieu par l'intermédiaire de Malachie, pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Quelle parole magnifique! Le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Donc voilà la parole de l'Ancien Testament, du prophète Malachie, qui à ce stade-là, bien sûr, ne pouvait pas penser à Jésus, mais il était inspiré. Et voilà qu'il se révèle que cette parole va devenir une des principales annonces des événements de Parhelmonial, en fait. Confirmée, pas par n'importe qui, par la Vierge Marie elle-même. Le 2 juillet 1688, 2 ans avant la mort de Marguerite Marie, le 2 juillet, c'était le jour à l'époque où on célébrait la solennité de la Visitation. Or, c'était une grande fête solennelle au couvent de la Visitation, pour cause. Donc ce 2 juillet, 2 ans avant la mort de Marguerite Marie, 1688, la Vierge Marie apparaît à Marguerite Marie dans une vision de gloire dans laquelle elle voit Jésus sur un trône d'où jaillissent des flammes, encore le feu, d'où jaillissent des flammes et entouré d'anges et de personnages qu'elle reconnaît. Il y a Saint François de Sales. De toute façon, si vous avez une description de cette grande vision, vous la trouverez à la chapelle Claude la Colombière. C'est la grande mosaïque qui est au fond de la chapelle, au-dessus du maître-autel. Elle voit Claude la Colombière, son père spirituel, qui était déjà mort depuis 6 ans à ce moment-là, Saint François de Sales, le fondateur de la Visitation, puis des visitandines et puis des pères jésuites autour de Claude. Et là, elle va dire à Marguerite Marie, en montrant le cœur de son divin fils, voilà le soleil de justice. C'est elle-même qui va faire référence à ce passage de Malachie. Et c'est quelque chose de très profond. Le cœur de Jésus est comme un soleil. On pourrait dire que le cœur de Jésus, on pourrait dire le soleil eucharistique du cœur de Jésus, avec la guérison dans ses rayons. Et lorsque nous sommes en adoration devant le Saint-Sacrement, comme Marguerite Marie, nous nous laissons visiter par ces rayons qui portent la guérison et la sanctification en eux. Donc elle-même dit, voilà le soleil de justice, ce cœur incandescent d'amour. Et cela revient aussi à la deuxième grande apparition, où en plus la thématique du soleil est très présente, puisque Marguerite Marie voit les plaies de Jésus comme des soleils brillants. Donc on peut vraiment méditer sur ce passage par rapport au feu, en tous les cas avec la thématique du feu, avec ce passage de Malachie, et de dire j'ai cette grâce, ici à Parhelmonial, mais aussi partout où je peux adorer le Saint-Sacrement, d'être en présence de ce soleil de justice qui m'apporte la guérison dans ses rayons. Et c'est pour notre temps. Et encore une fois, cette guérison, ce soleil de justice et les rayons qui viennent me visiter, je ne les garde pas pour moi, je ne les emmagasine pas. Je deviens à mon tour une flamme, une sorte de contagion de l'amour. Vous voyez, si vous regardez bien la peinture murale de la chapelle des apparitions, à partir du cercle qui représente la flamme ardente du cœur de Jésus, l'artiste a fait des cercles concentriques de plus en plus grands qui finissent par remplir tout l'espace. Manière de dire qu'il veut que son amour se répande et se répande dans tout l'univers, mais pas seulement dans l'univers spatial, mais dans toutes les générations, tous les temps. Le feu de l'amour du cœur de Jésus ne s'éteindra jamais. Nous le verrons dans l'éternité. Là aussi, c'est très biblique. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit que dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus ni soleil ni lune. On n'aura plus besoin de lampe non plus pour s'éclairer. Car c'est l'agneau qui sera notre lumière et notre flambeau. Là encore, il y a l'image du feu, le flambeau. Le cœur de Jésus qui est comme le cœur de la Nouvelle Jérusalem. Là, je vais me laisser entraîner, et pas trop longtemps, mais je ne résiste pas. Encore un trésor biblique que je vais vous livrer, même si je n'ai pas les références sous les yeux, mais vous ferez un petit peu vous-même une recherche. Hein ? Je ne vous dirai ni le chapitre, ni les versets, puisque je ne le sais pas par cœur. J'avais un professeur d'exégèse dans le temps, très très merveilleux, donc profond, mais qui voulait être en pédagogue, il voulait nous apprendre à explorer un petit peu la Bible. Et chaque fois qu'on lui demandait, alors, père, mais quel chapitre, quel verset, il dit, je ne suis pas un annuaire téléphonique, ni un bureau d'information. Vous chercherez, vous explorerez vous-même. Donc voilà, je vous disais que le cœur de Jésus, le flambeau du cœur de Jésus est comme le cœur de la Jérusalem céleste. On peut même dire d'une certaine façon que le cœur, la Jérusalem céleste tout entière, telle qu'elle est décrite dans l'Apocalypse chapitre 21, avec ses portes, ses pierreries précieuses, etc., en fait, cela reprend une image biblique très antique. On trouve ça dans le livre de l'Exode. L'institution du grand prêtre et surtout le pectoral du grand prêtre qu'il porte sur son cœur. Lisez la description du pectoral et vous trouverez exactement les mêmes pierres précieuses. Toutes les pierres précieuses qui symbolisent les 12 tribus d'Israël, comme la Jérusalem céleste. Les 12 portes symbolisent les 12 tribus d'Israël, c'est ce que dit saint Jean très clairement dans l'Apocalypse chapitre 21. Et là, le pectoral du grand prêtre porte sur lui comme 12 diamants de pierres précieuses qui symbolisent les 12 tribus d'Israël, et l'auteur du livre de l'Exode dit que Aaron, donc le premier grand prêtre, il porte de ce fait, chaque fois qu'il officie, les 12 tribus d'Israël sur son cœur. Sur son cœur. Aaron, c'est le grand prêtre de la première alliance. Jésus est le nouveau grand prêtre définitif de la nouvelle alliance, et il porte pas seulement les 12 tribus d'Israël, mais l'univers entier sur son cœur. Et dans ce sens-là, on peut presque faire une identification entre la Jérusalem céleste et l'immense cœur de Jésus, dans lequel qui va devenir notre demeure. Jean-Paul II, par exemple, dans une de ses litanies d'invocations, dans ses Angelus sur les invocations du Sacré-Cœur, il prend la dernière invocation, « Cœur sacré de Jésus », délice de tous les saints. Et là, il dit carrément que le cœur de Jésus sera notre lieu, notre espace vital, l'espace vital des bienheureux, dans lequel il y aura une circulation d'amour qui nous rendra une joie que nous ne pouvons même pas analyser ici, pas sur cette terre. Une sorte d'ivresse, comme dit Isaïe. Ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Le temps passe, là, je n'ai aucune idée jusqu'à quelle heure j'ai. Je ne me suis pas... Bon, alors, écoutez, on va conclure. Ce que je viens de faire là, ce n'est qu'une ébauche. Hein. Dans un enseignement normal, entre guillemets, que je donne, ce serait une introduction. Voilà. Enfin, peut-être pas tout à fait. Mais j'espère que vous avez vu l'actualité par rapport à la Bible et par rapport aux besoins de notre temps. Hein. Donc, je termine. Même si l'image du feu est moins présente, mais plutôt la source, vous allez faire une démarche jubilaire avec la porte sainte de la Visitation. Le père Matteo, qui est un des personnages de la fresque, le seul qui ne soit pas encore béatifié, et qui a été guéri miraculeusement en 1907 dans la chapelle des Apparitions, fait apposer une plaque commémorative au-dessus de la porte de la chapelle, qui cette année est la porte sainte. Donc écoutez bien les paroles qu'il dit, parce que ça va nous donner un désir de passer avec une grande ferveur cette porte sainte. Voici le sanctuaire de l'amour divin. Voici la source intarissable de la vie. Puisque nous sommes allés au cœur de Jésus, il nous est bon d'être ici. Voici la porte mystérieuse par laquelle on arrive au paradis de votre cœur de roi, de frère et d'ami, ô très miséricordieux Jésus. Dans ce ciel, vous avez déjà inscrit nos noms avec des caractères ineffaçables. Faites que, cachés dans cette blessure intime, nous soyons unis à vous éternellement en vie de sainteté, en soif de votre gloire, en amour de réparation. Vive le cœur sacré de Jésus, que son règne arrive. Amen.
Bonjour à tous. Alors, la librairie du Sacré-Cœur est ouverte.